catéchèse.
La catéchèse.
La catéchèse.
La catéchèse du Père Directeur.
Fidèles auditeurs de Radio Maria, veuillez recevoir nos salutations le plus fraternelles de partout d'où vous suivez la fréquence mariale. C'est l'heure de la catéchèse qui part une fois de plus de la sous-station de Matadi. L'Église, mère de la Bible, de la tradition vivante à la parole écrite. C'est le thème choisi par M. l'abbé Philibert Mayengue, le directeur éditorial de l'association de Matadi, qui va devoir nous édifier aujourd'hui à travers cette catéchèse. Bonjour M. l'abbé.
Bonjour à toi Daniel, que la paix du Christ soit avec toi et à tous nos auditeurs, à tous nos internautes qui sont branchés en ce moment-ci sur la fréquence bleue radio de la mer du ciel.
Nous venons de le dire, Monsieur l'abbé, l'Église mère de la Bible, de la tradition vivante à la parole écrite, c'est le thème choisi pour ce jour.
Oui, Daniel, aujourd'hui nous allons essayer de découvrir ou de contempler ensemble un mystère fondamental de notre foi. Je dis ici la foi catholique. Il s'agit du lien intime entre l'Église et la Sainte Écriture. Et c'est le thème d'aujourd'hui. Hier, il y a Patty qui voulait savoir que veut dire Église mère de l'Église, Église notre mère. Et à partir de ce thème, je voulais aller plus loin pour montrer que l'Église est même la mère de l'Église. Nous allons donc découvrir tout cela. Nous allons voir comment la parole de Dieu, transmise d'abord oralement, a été recueillie, discernée, conservée et transmise fidèlement par l'Église, évidemment guidée par l'Esprit Saint. Et donc, nous allons découvrir ensemble que l'Église est véritablement la mère de la Bible. C'est elle qui a son sein, évidemment, à son sein, a conservé la révélation. L'Église l'a transmise, proclamée et ensuite mise par écrit. Donc, nous allons découvrir tout cela à travers cette catéchèse d'aujourd'hui.
Merci beaucoup, M. l'abbé. Fidèles auditeurs, ceci étant dit, nous allons devoir nous disposer pour suivre ces enseignements qui vont nous aider à pouvoir faire grandir davantage notre foi. Et nous allons ainsi prier avec M. l'abbé en commençant par l'invocation de l'Esprit-Saint. Merci beaucoup, Georges Ngoma, pour cette très belle chanson de l'Esprit Saint en langue diocèse de Matadi. Monsieur l'abbé, nous venons à vous pour la prière.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur notre Dieu, c'est toi qui es la source de toute parole vivante. Nous te bénissons pour les dons de la Sainte Écriture, fruit de ton esprit, transmise par la foi de ton Église. Merci pour cette tradition vivante par laquelle ta parole a été proclamée, vécue et mise par écrit, afin que nous puissions aujourd'hui encore entendre ta voix. Envoie sur nous ton Esprit Saint, qu'il éclaire notre intelligence et touche notre cœur. Fais-nous entrer dans les mystères de ta parole, non seulement comme des simples lecteurs, mais et surtout comme des disciples à l'écoute de leur maître. Nous voulons remettre cette catéchèse entre tes mains. Fais que par l'intercession de la Vierge Marie, Mère de l'Église, et de ta parole, que notre esprit s'ouvre, notre intelligence s'ouvre à la compréhension profonde des Écritures et fais de nous des témoins fidèles de ta vérité. Toi qui es notre Dieu, qui vis et qui règne pour les siècles des siècles. Amen.
Voilà, merci beaucoup fidèles auditeurs. Nous allons démarrer cette catéchèse et dans l'entretemps, comme d'habitude, nous allons présenter nos préoccupations par les 089 10 32 954. 089 10 32 954. Les thèmes choisis pour ce jour, Monsieur l'abbé vient de les dire et surtout les motiver. Il nous a dit pourquoi est-ce que il a choisi de nous entretenir sur l'Église mère de la Bible, de la tradition vivante à la parole de Dieu.
Biblia, buku ya bomoi, buku ya banyae, emayele, ekokolisa boya mbibwa biso.
Maloba mabuku ya mobeko, malongwa omonoko mwayote, manyola mango buku moi, natina te osalela yango. Mama mabako tanga
Bibia
Patata bako tanga
Bibia
Bilenge bako tanga
Bibia
Basi pe babali
Bibia
Bibia liloba lya Nzambe
Bibia Buku ya bomoi Buku ya bwanyae Emayele, ekokolisa boya mbibwa biso Bibia, buku ya bomoi, buku ya bwanyae Emayele, ekokolisa boya mbibwa biso.
Voilà, merci beaucoup fidèles auditeurs. À présent, nous allons devoir nous embarquer dans cette catéchèse. Nous l'avons dit, pour vous qui venez de nous rejoindre, le thème est très intéressant. L'Église mère de la Bible, de la tradition vivante à la parole écrite. En attente de vos préoccupations après l'exposé de M. l'abbé, par les 089 10 32 954. M. l'abbé.
Chers auditeurs, chères auditrices, chers internautes, soyez les bienvenus dans notre rendez-vous d'aujourd'hui, dans cette catéchèse, et que la paix du Seigneur soit avec vous. Avec vous aujourd'hui, nous allons prendre un temps d'écoute et de découverte autour d'une question essentielle. D'où vient en fait la Bible? Et quel est le rôle de l'Église dans sa transmission? J'aimerais que nous puissions retenir que la Bible n'est pas tombée du ciel. Déjà toute reliée, non. Elle est née au cœur d'une histoire, celle d'un peuple, celle d'une foi et surtout celle d'une Église. Nous allons voir ensemble comment l'Église, inspirée par l'Esprit Saint, a gardé, a transmis et canonisé la parole de Dieu. Alors le premier point, nous allons voir avant l'Église, on avait la parole qui était transmise. Chers auditeurs, chers internautes, nous le savons, Jésus n'a rien écrit de sa main. Après sa mort et sa résurrection vers 30 après Jésus-Christ, les apôtres annoncent la bonne nouvelle par la parole, par les témoignages et par la liturgie. Dans le livre des Actes au chapitre 2, verset 42, nous lisons « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle et la fraction du pain et les prières. » Cette annonce donc s'enracine dans une tradition orale vivante. Les récits de la vie de Jésus, ses miracles, sa passion et sa résurrection sont racontés, médités, chantés et peu à peu mémorisés en communauté. Voilà pourquoi nous passons alors à la tradition vivante, qui est même le fondement de la foi chrétienne, la tradition. Dans 2 Thessaloniciens 2,15, Paul dit « Frère, tenez ferme et gardez les traditions que nous vous avons enseignées, soit de vive voix, soit par lettre. » Et le Concile Vatican II, dans sa constitution Dei Verbum, au paragraphe 9, va dans le même sens. Quand on dit « la sainte tradition et la sainte écriture sont intimement unies et communiquent ensemble. » Ce que nous appelons tradition, chers auditeurs, chers internautes, c'est la vie même de l'Église, transmise d'une génération à l'autre. La foi des apôtres, la liturgie, les sacrements, l'enseignement, avant même la Bible, c'est l'Église qui est la gardienne de cette révélation. Elle est passée de l'oral à l'écrit. Et donc, nous allons voir la naissance progressive de la Bible. La Bible n'est pas tombée du ciel. La Bible ne s'est pas constituée en un jour. D'abord, l'Ancien Testament, il est transmis d'abord oralement ses textes. Il y a d'abord les lois, les prières, les récits, et sont ensuite écrits en hébreu. Là, nous sommes au 8e siècle, du 8e siècle au 1er siècle avant Jésus-Christ. Et certains sont écrits en hébreu. Là, nous sommes au 8e siècle, du 8e siècle au 1er siècle avant Jésus-Christ. Et certains sont écrits en elle, la Septante, utilisée par Jésus et les premiers chrétiens. Il y a les manuscrits de Qumran, retrouvés au XXe siècle, nous montrent à quoi ressemblaient ces anciens rouleaux. Ça, c'est un peu ce qu'on peut dire brièvement de l'Ancien Testament. Tandis que le nom de Jésus et les premiers chrétiens. Il y a les manuscrits de Qumran retrouvés au XXe siècle, nous montrent à quoi ressemblaient ces anciens rouleaux. Ça, c'est un peu ce qu'on peut dire brièvement de l'Ancien Testament. Tandis que le Nouveau Testament, ses premières lettres, entre 65 et 100, on va écrire les quatre évangiles, les actes des apôtres, l'Apocalypse, et d'autres lettres sont rédigées. Avant les évangiles complets, circulent des recueils de paroles, des recueils, des miracles, des récits de la passion de l'Ancien Testament. Tandis que le Nouveau Testament, ses premières lettres, entre 65 et 100, on va écrire les quatre évangiles, les actes des apôtres, l'Apocalypse, et d'autres lettres sont rédigées. Avant les évangiles complets, circulent des recueils de paroles, des recueils, des miracles, des récits de la passion. Avec l'expansion de l'Église naissante, de nombreux écrits apparaissent. Il faut donc discerner ceux qui sont vraiment inspirés et d'autres lettres sont rédigées. Avant les évangiles complets, circulent des recueils de paroles, des recueils, des miracles, des récits de la passion. Avec l'expansion de l'Église naissante, de nombreux écrits apparaissent. Il faut donc discerner ceux qui sont vraiment inspirés, lecture dans les célébrations, et puis accord avec la tradition reçue. Ils doivent être en accord avec la tradition reçue. À partir de ces... Avant les évangiles complets, circulent des recueils de paroles, des recueils, des miracles, des récits de la passion. Avec l'expansion de l'Église naissante, de nombreux écrits apparaissent. Il faut donc discerner ceux qui sont vraiment inspirés. Les lectures dans les célébrations et puis accord avec la tradition reçue. Ils doivent être en accord avec la tradition reçue. À partir de ces 46, c'est de l'Église naissante, de nombreux écrits apparaissent. Il faut donc discerner ceux qui sont vraiment inspirés. Les lectures dans les célébrations et puis accord avec la tradition reçue. Ils doivent être en accord avec la tradition reçue. À partir de ces 46, c'est pratique et transportable, parce que c'était difficile de transporter les rouleaux. Alors, les manuscrits comme les Codex Vaticanus, les Sinaiticus ou Alexandrinus deviennent alors des références. Alors, du 5e siècle à la Renaissance, il y a les moines qui vont copier fidèlement les textes. Ils faisaient ça, s'il vous plaît, à la main. Ils copiaient fidèlement. Et puis viendra la division en chapitres. C'est au 13e siècle avec un certain Estienne Langton. Et puis la subdivision en versets. Au 16e siècle seulement avec Robert Estienne. Tout cela pour faciliter la lecture. Aujourd'hui, nous avons une Bible accessible à tous. À la main, il copiait fidèlement. Et puis viendra la division en chapitres. C'est au 13e siècle avec un certain Estienne Langton. Et puis la subdivision en versets. Au 16e siècle seulement avec Robert Estienne. Tout cela pour faciliter la lecture. Aujourd'hui, nous avons une Bible accessible à tous. Et puis, la subdivision en versets. Au 16e siècle seulement, avec Robert Estienne. Tout cela pour faciliter la lecture. Aujourd'hui, nous avons une Bible accessible à tous. Nous devons toujours répondre que sans l'Église, vous n'avez pas la Bible. Car c'est elle, guidée par l'Esprit Saint, qui en a défini les livres. C'est l'Église qui a conservé la révélation qui était au départ orale, cette révélation qui a été transmise de génération en génération, cette révélation qui a soutenu la foi des chrétiens. On a constitué les communautés. Et finalement, on a senti le besoin d'avoir un livre. Et c'est comme ça que l'Église va, encore une fois, après avoir discerné, va définir les canons des Écritures, les canons de la Bible. Tous ces livres de la Bible que nous connaissons ont été retenus par l'Église grâce à un sérieux travail de discernement de l'Esprit Saint. L'Église est donc mère de la Bible. Peut-être nous allons revenir à travers vos questions. L'Église est mère de la Bible. L'Église est gardienne de cette révélation. Et cette révélation a commencé oralement d'abord. C'était la tradition orale, véhiculée de bouche à l'oreille. Et puis, de cette tradition orale, on est passé à la Bible, écrite à la Bible, bien codifiée, telle que nous l'avons aujourd'hui. Voilà donc, fidèles auditeurs, les grandes lignes que nous pouvons retenir dans cette catéchèse d'aujourd'hui.
Voilà, merci beaucoup, monsieur l'abbé Philibert Maïngélé. Nous allons à présent, fidèles auditeurs, passer à la partie interactive. Toutes vos questions sur ce thème intéressant. Beaucoup de choses se racontent autour de la Bible et grâce à M. l'abbé Philibert, nous avons bénéficié de beaucoup d'éléments de précision et qui ont certainement apporté des réponses à nos nombreuses préoccupations autour de la Bible. Mais pour beaucoup plus d'éclaircissement, nous sommes disposés à pouvoir recevoir vos questions à travers les 089 10 32 954 089 10 32 954. Nous allons prendre le tout premier intervenant. Bonjour, monsieur l'abbé. Actuellement, sur le marché, il y a multitude de Bibles. Quelles sont les caractéristiques de la Bible convenable à nous chrétiens catholiques? Deuxième question. Qui est habile à pouvoir expliquer la Bible dans l'Église catholique au vu de ce qui se passe aux prières hebdomadaires de certains mouvements d'action catholique dans nos paroisses? Question signée Papa Flavien Zita de la paroisse Sainte-Bernadette Souyou.
Merci beaucoup à notre frère Flavien pour votre question. C'est une très belle question, elle est très pertinente. Et merci beaucoup d'avoir pensé à ces deux questions et à trois autres questions. C'est une très belle question, elle est très pertinente. Et merci beaucoup d'avoir pensé à ces deux questions et à travers le Carme qui est aussi de Sainte Bernadette. Vous me posez la question, quelles sont les caractéristiques de la Bible, devant évidemment cette multitude de livres, de Bibles que nous avons aujourd'hui. Moi, je crois que la première caractéristique, c'est que nous devons chercher à lire les Bibles qui ont été, traduites par l'Église catholique. Parce que la Bible est la parole de Dieu qui a été confiée d'abord à l'Église et à l'Église catholique. J'ai bien dit que la Bible n'est pas tombée du ciel, mais elle a été transmise par la tradition et reconnue dans l'Église comme inspirée. Pourquoi la tradition de l'Église catholique? Parce que cette tradition de l'Église contient 73 livres. Il y a 46 de l'Ancien Testament et nous avons 27 livres du Nouveau Testament. Donc les canons catholiques diffèrent de celles des protestants qui n'en reconnaissent que 66. Par exemple, les cas quand vous avez Louis II. Louis II, c'est une tradition protestante et là vous n'avez que 66 livres. Les livres hétérocanoniques ne sont pas là. Et puis, la Bible doit se lire à la lumière du Christ. C'est comme ce que dit Saint Jérôme, ignorer les Saintes Écritures, c'est donc ignorer le Christ. Donc, tout l'Ancien Testament prépare la venue du Christ. Et le Nouveau Testament en est l'accomplissement. Et donc, la Bible est christocentrique, il ne faut pas oublier cela. Voilà pourquoi il ne faut pas négliger les autres livres hétérocanoniques, comme disent nos frères les protestants. Et puis, un autre critère important qu'il faut retenir, c'est que il faut toujours se référer à la tradition. L'écriture ne se comprend pas sans la tradition. C'est cela que l'Église, le Concile Vatican II, j'allais dire, nous enseigne. Vous voyez ? Nous avons la tradition, nous devons nous référer à la tradition. Nous avons les magistères, les commentaires, des papes, des évêques, tout cela. Ça doit nous aider. Et voilà pourquoi il est aussi important que nous, catholiques, nous puissions avoir des livres qui ont des commentaires. Quand vous avez, par exemple, les livres, la Bible de Jérusalem, vous voyez, il y a des commentaires, certaines références de la tradition qui nous aident à bien comprendre la Bible. Voilà. Donc, c'est mieux que nous puissions, nous, avoir des Bibles qui ont été traduites par notre Église. Il y a beaucoup de traductions de la Bible. Il y a aussi, à Kinshasa, on avait initié la traduction d'un livre qu'on appelait Bible, d'une Bible qu'on appelait Bible de la communauté chrétienne. Vous voyez ? Et là, vous trouvez des interprétations liées à la communauté chrétienne. Ce que vous ne trouvez pas dans, évidemment, dans les canons ou dans les traductions protestantes de la Bible. Alors, qui est habile pour lire et interpréter la Bible dans l'Église catholique? La première chose qu'il faut retenir, c'est que tout chrétien peut lire la Bible. Tout chrétien peut lire. Le Concile Vatican II encourage cela. Il faut une lecture fréquente de la Bible. Et en lisant fréquemment la Bible, les chrétiens acquièrent la science éminente de Jésus-Christ. Voilà, c'est ça. Les chrétiens acquièrent une certaine connaissance. Donc, tout fidèle catholique, Flavien, est invité à lire la Bible et la lire avec foi et humilité. Mais l'interprétation correcte exige une formation, exige un guide. Voilà pourquoi, ici, on peut se permettre de dire que seule l'Église, avec ses pasteurs, les papes, les évêques, le prêtre et les diacres, des pasteurs légitimes qui ont l'autorité pour interpréter officiellement la parole de Dieu. C'est là justement pour éviter ce que vous venez de dire, les interprétations erronées ou même à tendance sectaire. Parce que la Bible, ce n'est pas facile, la Bible. Interpréter correctement la Bible, ce n'est pas facile. Il ne suffit pas de dormir, de se réveiller pour s'autoproclamer pasteur ou spécialiste de la Bible, non. Alors, il y a aussi des théologiens, des biblistes catholiques, des gens formés qui peuvent aussi interpréter correctement la Bible. Mais, bon, il faut dire ici que le vrai maître, évidemment, c'est l'Esprit Saint. C'est à l'inspiration de l'Esprit Saint, nous pouvons alors approcher, interpréter et communiquer la parole de Dieu fidèlement à nos chrétiens. Voilà. Merci beaucoup, Papa Flavien, pour vos deux questions.
Voilà, merci. Nous allons passer à un autre intervenant. Il s'agit de M. Sylvain Pouyébi de la paroisse Notre-Dame Médiatrice, cathédrale de Matadi. Bonjour, M. l'abbé Philibert Mayengele. Bonjour, M. les journalistes. Voici mes questions. Qui a rassemblé les livres de la Bible et avec quelle autorité a-t-elle décidé du canon biblique? 2. Avant que la Bible ne soit accessible à tous, comment le premier chrétien connaissait-il la foi et suivait-il Jésus? Troisième question, peut-on comprendre pleinement la Bible sans l'interprétation de l'Église qui l'a transmise? Ce sont les trois questions posées par notre frère Sylvain.
Merci beaucoup Sylvain pour vos trois questions. Je crois que dans mon exposé, je suis revenu là-dessus. Qui a rassemblé tous les livres de la Bible? Eh bien c'est l'Église. Et c'est l'Église catholique. Voilà pourquoi, dans les thèmes de cette catéchèse, j'ai bien dit que l'Église est mère de l'Église et gardienne, mère de la Bible plutôt, et gardienne de la Bible. Donc, c'est l'Église catholique, dès le premier siècle, qui a reconnu, évidemment, rassemblé et fixé la liste des livres inspirés que nous appelons aujourd'hui la Bible. Sous quelle autorité? Mais il l'a fait sous la conduite de l'Esprit Saint, en exerçant l'autorité apostolique que le Christ lui-même a confiée à ses apôtres. Rappelez-vous, dans Matthieu chapitre 16, à partir du verset 18, Jésus a dit à Pierre, « Tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. C'est là l'autorité. Vous voyez, l'église a reçu cette autorité-là du Christ lui-même. C'est le Christ qui a voulu l'église, c'est le Christ qui a transmis son propre pouvoir aux apôtres. Et cela s'est formé hein, petit à petit. Hein. À l'époque de Jésus, il y avait plusieurs versions qui circulaient, je les ai dit ça. Les apôtres, ils ont utilisé la Septante, c'est-à-dire la traduction grecque, qui est plus large des écritures hébraïques. Et l'Église a conservé 46 livres de l'Ancien Testament, y compris les livres deutérocanoniques que les protestants ont rejetés. Et puis, tous ces textes qui circulaient, voilà, l'Église a discerné ce qui était authentiquement apostolique, fidèle à la foi et reçu dans la liturgie. Je vous ai donné tantôt les critères qui ont permis à l'Église de sélectionner tous les livres. Bon, alors, le canon donc biblique va être fixé. D'abord, le Concile de Rome, je l'ai dit, en 383, sous le pape Damas, qui va reconnaître 73 livres. Et cela va être confirmé au Concile de Carthage et finalement au Concile de Trente, en passant par le Concile de Florence. Alors, que faisaient les premiers chrétiens? Les premiers chrétiens, je crois que je l'ai dit tantôt, tout se faisait oralement, parce que après la mort de Jésus, après sa résurrection, son ascension, je l'ai dit, Jésus lui-même n'a pas laissé d'écrit. Donc, les apôtres annoncent la bonne nouvelle par la parole, par les témoignages, ce qu'ils ont vu, vous voyez, ce qu'ils ont entendu. C'est ce que les apôtres partageaient. Et puis, à travers la liturgie, comme dans les actes, nous les lisons, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, enseignement. C'est ce qui faisait vivre les premières communautés chrétiennes. On peut les lire, dans la communion fraternelle, il y a la fraction des pains et puis des prières quotidiennes. C'est cela qui a soutenu la foi des premiers chrétiens. C'est ce que nous appelons la tradition orale, mais une tradition vivante. Et donc, le récit de la vie de Jésus, ses miracles, sa passion, sa résurrection sont racontés, médités, chanter. Et peu à peu, on va sentir, alors en ce moment-là, les besoins, n'est-ce pas, les besoins de codifier la Bible. Comme ça, on a un livre accessible à tous. Voilà comment les premières communautés chrétiennes ont survécu et ils ont conservé leur foi. Alors, la troisième question, je ne sais pas si Daniel peut me rappeler ça. La troisième question de Sylvain, c'était encore quoi?
Merci beaucoup, M. Abbé. La troisième question de notre frère Sylvain dit ceci. Peut-on comprendre pleinement la Bible sans l'interprétation de l'Église qui l'a transmise?
Ah non. Il est difficile de comprendre pleinement la Bible sans la tradition, sans passer par l'Église. Je crois que je vous ai cité les passages des saints. Ça, c'est important. Il y a des choses qu'on ne peut pas négliger. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se racontent. Saint Augustin lui disait, je ne croirai pas à l'Évangile si l'autorité de l'Église catholique n'est m'y poussée. Donc, c'est l'Église qui a cette autorité-là d'interpréter fidèlement les Écritures. Si nous voulons comprendre la Bible, eh bien, on ne doit pas négliger la tradition de l'Église. Cette tradition qu'il a conservée, cette tradition qu'il a transmise de génération en génération. Vous voyez? Donc, sans l'Église, mon frère Sylvain, vous n'aurez pas la Bible, vous ne pouvez pas comprendre l'Église. Parce que c'est elle qui est guidée par l'Esprit-Saint qui en a défini les livres. Voyez, pas seulement définir les livres, mais c'est l'Église qui a favorisé qu'on puisse copier tout cela.
tous les témoignages, tout ce que les gens se disaient de bouche en oreille, tout ce que les apôtres ont dit, enseigné. Il fallait mettre tout cela par écrit. Et c'est l'Église qui a permis cela. Et tenez, hein, les manuscrits de l'Église, c'est-à-dire tous ces documents qui viennent de l'Antiquité, ont été conservés par l'Église. Vous voyez, par l'Église. Donc, c'est dire simplement qu'on ne doit pas négliger la place de l'Église si nous voulons bien comprendre la Bible. Merci beaucoup à notre frère Sylvain Pouibé pour vos questions.
Merci beaucoup. Bonjour, monsieur l'abbé. Voilà, ça c'est un frère qui nous rappelle un message d'hier. Nous trouverons comment y revenir si nécessaire, frère. Nous allons prendre un autre message. Bonjour ma radio, bonjour monsieur l'abbé et bonjour monsieur Daniel. Merci pour cette très belle catéchèse. Voici mes questions. L'Église, notre mère et mère de la Bible, a l'autorité seulement sur la Bible et non sur la parole de Dieu? Deuxième question. Le mot Bible, qui n'est pas biblique, est toujours le fruit de l'Église Notre Mère? Troisième question. Quel est l'apport dans la Bible de Saint Jérôme de Stridon et Saint Jean Chrysostome? Et comment expliquer que la Bible puisse parler toujours à neuf? Voilà les trois questions de notre frère Félicien Katumba de Marie de Saint-Pédis Ngeringere.
Merci beaucoup, Félicien, pour vos questions. D'abord, vous me demandez si l'Église Notre Mère, qui est mère de la Bible, a seulement autorité sur la Bible et pas la parole de Dieu. Mais la Bible, c'est quoi? La Bible, c'est la parole de Dieu. Vous voyez? La Bible a beaucoup de noms. Hein? On peut appeler ça livre de révélation. Si l'Église Notre Mère, qui est mère de la Bible, a seulement autorité sur la Bible et pas la parole de Dieu, mais la Bible, c'est quoi? La Bible, c'est la parole de Dieu. Vous voyez? La Bible a beaucoup de noms. Hein? On peut appeler ça livre de révélation précis. Et l'Église affirme que la Sainte Écriture est vraiment la parole de Dieu. C'est une vérité des foi. Et naturellement, la parole qui est proclamée par l'Église. Hein, donc, cette parole proclamée, c'est ça, en fait, la parole de Dieu. Alors, le terme Bible. D'abord, il faut savoir, ces termes signifient quoi? Ça signifie quoi? Ça veut dire tout simplement l'ensemble des livres. Ça signifie quoi? Ça veut dire tout simplement l'ensemble des livres. Parce que la Bible, c'est comme Ya qui veut dire les livres, plusieurs livres, l'ensemble des Bibles. Parce que la Bible, ce n'est pas un seul livre, mais c'est l'ensemble des livres inspirés par Dieu, qui a été rédigé sur plusieurs siècles. Hein. Je crois que je vous ai dit ça un peu rapidement dans cette catéchèse. Vous voyez? C'est ce que ça veut dire. Et donc, si l'Église a seulement a retenu les mots Bible simplement, c'est pour dire que vous tenez entre vos mains plusieurs livres qui ont été mis ensemble, et ces livres à deux parties. Il y a l'Ancien Testament ou la Première Alliance et le Nouveau Testament ou qui est en fait la Nouvelle Alliance. Donc c'est ça que veut dire ces termes-là.
même si on ne trouve pas ça dans la Bible, mais en tout cas, cela veut tout simplement dire que nous avons entre nos mains, comme je l'ai dit tantôt, plusieurs livres. Alors, quel est l'apport de Saint Jean Chrysostome? Bon, il y a une dernière question encore, peut-être qui faisait suite à cette première. Mais bon, retenons d'abord que Saint Jean Chrysostome, hein, bon, quel est son apport? En fait, c'est lui qui a traduit la Bible en latin. Cette Bible qu'on appelle la Vulgate. C'était le traducteur officiel de la Bible. C'était l'unique langue en latin qui était comprise dans tout l'Occident chrétien de son temps. Il a traduit l'Ancien Testament, Saint Jérôme. La parole de Dieu est devenue accessible au peuple de la langue latine. L'unique souci qu'il habitait, évidemment, c'est le souci de fidélité et de clarté. Tandis que Saint Jean Chrysostome, son apport principal, c'était la prédication. Saint Jean Chrysostome, c'est lui qu'on appelait la bouche d'or. C'était un grand prédicateur. Il a permis, à travers ses prédications, à faire connaître et à interpréter fidèlement les Saintes Écritures. Il a fait plusieurs homélies bibliques, surtout sur les évangiles, les psaumes et les lettres de Saint Paul. Lui, Saint Jean Chrysostome, enseignait la lecture de la Bible selon la foi récite de l'Église. Et il disait que la Bible devait transformer la vie et conduire à la charité, à la justice et peut-être à la prière. Bon, il insistait aussi sur les sens spirituels des Écritures. Voilà un peu l'apport de ces deux-là. Et la suite de la question avec toi, Daniel.
C'était la dernière question. Nous allons, je pense, passer à un autre intervenant. Je voudrais parler des manuscrits de Qumran. Pourquoi tant de mystères? Et aussi, si l'on découvrait aujourd'hui d'autres écrits authentiques, remettrait-il en question la Bible? La question vient de Arsène Ika de la paroisse Marie Reine des Apôtres à Kinshasa.
Bon, découvrir, évidemment, on n'a jamais fini de découvrir. On va continuer à découvrir. Peut-être qu'on en trouvera encore d'autres. Mais ce qui est vrai, c'est que l'essentiel des manuscrits ont été conservés par l'Église. Vous voyez? Alors, il faut d'abord savoir quels sont les manuscrits de Qumran. Ces manuscrits, en tout cas, d'après ce que je peux avoir encore, c'est des parchemins anciens qu'on a découverts. On a découvert vers les années 50, en tout cas, entre, je crois, 45-50, dans des grottes qui sont proches de la mer Morte, près du site qu'on appelle Qumran, en Israël. On a découvert ces textes-là. C'est des livres bibliques comme Isaïe, comme les psaumes, comme les Deutéronomes. Il y a aussi des textes apocryphes qui sont peut-être inconnus, et puis des écrits communautaires. Voilà. C'est ce qui constitue ces manuscrits qu'on appelle manuscrits de Qumran. C'est protégé par l'Église, c'est protégé au Vatican, dans des endroits strictement interdits parce que c'est des grandes richesses spirituelles. Je crois que je vous ai donné ça dans ma catéchèse la semaine passée quand j'ai parlé des trésors spirituels de l'Église. Tant de mystères parce qu'ils sont très anciens. Hein? Mystères, pas dans le sens des mystiques, parce que c'est des écrits très anciens, connus de la Bible hébraïque. Cela bouleverse les certitudes sur la transmission des Écritures. Quand je vous dis que c'est l'Église qui a conservé, c'est entre autres à partir de ce que vous dites là, mon frère, ces manuscrits de Qumran. Pourquoi tant de mystères? Parce qu'ils révèlent la diversité même du judaïsme ancien. Et peut-être ils contiennent des textes non présents dans notre Bible. Parce que l'Église a sélectionné, on n'a pas tout retenu, on ne pouvait pas tout écrire. Et parce que ces documents restent un peu secrets, quoi, hein, secrets. L'Église conserve cela parce que c'est des documents très, 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 très précieux. Bon, alors, si on arrive à découvrir d'autres écrits de saint Paul, vous avez parlé, par exemple, des lettres de l'Odyssée et tout le reste, mais bon, si on arrive à découvrir, bon, l'Église, comme toujours, hein, il va essayer de discerner, l'Église, comme toujours, il va essayer de lire par l'inspiration de l'Esprit-Saint et peut-être retenir ce qui peut être retenu. Actuellement, il y a d'ailleurs une nouvelle traduction de la Bible qui circule avec des compléments importants. Donc c'est pour dire que peut-être qu'on n'a jamais fini à découvrir. J'ai parlé, c'est des richesses inconnues. L'Église continue à lire cela, l'Église continue à exploiter cela. L'Église verra dans quelle mesure peut-être on peut enrichir ces livres. Aujourd'hui, on a corrigé les Notre Père. On ne dit plus « ne nous soumets pas à la tentation hein? ». On dit « ne nous laisse pas entrer ». Donc, il y a une erreur de traduction qui est entrée. C'est pour dire que l'Église a cette autorité-là. Et donc, quand on aura découvert d'autres manuscrits, d'autres écrits, de Paul ou de Pierre, ou je ne sais pas de qui, eh bien, avec le discernement de l'Église, si on estime que ça peut nourrir notre foi, si on estime que ça, y a une fidélité avec la tradition apostolique, l'Église a cette autorité-là, de pouvoir peut-être proposer des nouvelles traductions de la Bible ou des corrections des textes que nous avons aujourd'hui entre nos mains. Voilà ce que je peux dire à notre frère Arsène, à qui je dis de tout cœur merci pour sa question.
Voilà, merci beaucoup et nous allons prendre à présent cette note vocale.
Bonjour Daniel, bonjour Monsieur l'Abbé, et merci beaucoup pour cette très belle catéchèse. Trop à dire, un sujet tellement intéressant, je ne sais même pas par où commencer, ça bouillonne dans ma tête. Hein. Mais néanmoins, voici une petite observation, Monsieur l'Abbé. Lorsque vous dites « Église mère de la Bible », qu'est-ce que signifie alors, parce qu'on s'entend que c'est elle qui est l'auteur de la Bible, l'Église, et je vois ici l'Église catholique. Qu'est-ce que signifie alors la Bible tirée de la traduction œcuménique? Et quelles sont les églises qui s'étaient rassemblées autour de cet œcuménisme pour écrire cette Bible-là de traduction œcuménique? Et en quoi cette Bible est-elle œcuménique, contrairement à d'autres Bibles que nous trouvons par-ci, par-là? Une deuxième observation, Monsieur l'Abbé, j'ai avec moi la Bible africaine. J'ai avec moi la Bible africaine entre mes mains. Et je remarque que de la Genèse à l'Apocalypse, le terme Église mère n'est pas explicitement utilisé dans la Bible. Ce terme-là n'est pas dans la Bible. Pour désigner ainsi une institution spécifique dotée d'un pouvoir juridique pour interpréter seule la parole de Dieu. Pouvez-vous me donner la base biblique qui parle de l'Église mère et seule capable d'interpréter la parole de Dieu? Et pour finir, Monsieur l'Abbé, quelle différence y a-t-il entre la parole de Dieu et la Bible? Est-ce que la Bible africaine que je tiens entre mes mains ici, en tant que livre, est-elle la parole de Dieu? Merci, mais cela ne veut plus, moi je m'arrête là. Pour finir, très cher Monsieur l'Abbé, dans quelle catégorie l'Église place-t-elle les apocryphes? Est-ce que les apocryphes sont classés dans la catégorie de la tradition orale, c'est-à-dire la tradition vivante? Est-ce qu'ils sont placés ou classés dans la catégorie de la tradition écrite, ou plutôt vous les considérez dans le recueil, comme des recueils de la parole, voire des miracles ou des récits? Ou finalement, les apocryphes sont considérés par l'Église comme des ramassis, hein, des ramassis que l'Église se donne la peine, malgré tout ça, de remplir sa bibliothèque au Vatican. Et lorsqu'il y a un vide ou un silence sur un texte biblique quelconque dans la Bible, est-ce que l'Église ne peut-elle pas recourir à la jurisprudence de la Bible que j'appelle les apocryphes? Merci beaucoup, M. Labbé, bonne journée.
Merci beaucoup, Joseph Desmarie, pour toutes vos questions. Comme toujours, je vais demander peut-être à Daniel de me rappeler d'autres questions avec précision. Je réponds à la première question. Vous demandez... Non, en fait, c'était une observation. Pourquoi je parle de l'Église comme mère, hein, mère de la Bible? En fait, je suis parti d'une question qui m'a été posée hier par notre frère Paty. J'espère qu'il nous suit et je le salue cordialement. Qui voulait savoir pourquoi nous disons l'Église notre mère. Bon, j'ai poussé un peu la réflexion très loin pour dire, aujourd'hui je peux parler d'Église comme mère de la Bible. Simplement parce que, avant que la Bible soit un livre écrit, que vous tenez entre vos mains là, elle était vivante dans l'Église. La Bible était proclamée, la Bible était vécue, la Bible était transmise. Et l'Église primitive, les premières communautés chrétiennes, déjà au premier siècle, a conservé cette tradition, récit des apôtres, a discerné, et même canonisé les livres inspirés, évidemment sous l'inspiration de l'Esprit-Saint. C'est donc l'Église qui a donné la Bible au monde, qui a donné la Bible, comme une maman donne au monde un enfant. Vous voyez, c'est l'Église. Une maman met un enfant au monde, donne naissance à un enfant. L'Église a mis au monde la Bible. Il a donné naissance à la Bible. Comment voulez-vous l'appeler, Joseph de Marie? Et saint Augustin pouvait dire, une maman met un enfant au monde, donne naissance à un enfant. L'Église a mis au monde la Bible. Il a donné naissance à la Bible. Comment voulez-vous l'appeler, Joseph de Marie? Et saint Augustin pouvait dire, Bible. Il y avait une nécessité. Alors, les églises qui confessent la même foi se sont mises ensemble, ils ont dit non, nous devons avoir une Bible qui est acceptée par tout le monde. Il s'agissait des catholiques, des protestants et des orthodoxes. L'objectif visé, c'était avoir une traduction fidèle aux textes originaux. Et il y a même, ce qui est intéressant dans cette Bible, c'est que vous trouvez des notes explicative. Vous voyez? Et ces notes-là, ce qui est intéressant, c'est que ça respecte la sensibilité de chaque confession. Quand il s'agit des catholiques, c'est des catholiques. Quand c'est des orthodoxes, c'est des orthodoxes. Tu vois? Donc, c'est un livre, ou disons, j'allais dire une Bible, parce que c'est l'ensemble des livres. Hein? Cette Bible-là, est accepté par les catholiques, par les orthodoxes et par les protestants. Même les livres hétérocanoniques sont là-dedans. Alors, pourquoi on doit appeler ça Bible œcuménique? Je crois que j'ai déjà répondu, parce que plusieurs confessions chrétiennes ont travaillé ensemble pour offrir une traduction commune de cette Bible-là. Elle est vraiment intéressante. Et moi, je me rappelle encore notre professeur de Pentateuque insistait là-dessus. Il nous disait qu'il faut lire cette Bible-là parce qu'elle est très bonne. Et ça nous donne une idée sur l'ensemble de la Bible selon la conception catholique, la conception protestante et selon la conception des orthodoxes. Voilà. Donc c'est important de lire cette Bible et ça nous aide. En tout cas, ça nous rapproche, ça nous met ensemble avec nos autres frères protestants, orthodoxes et nous, les catholiques. Alors, deuxième question, c'est une belle question. Vous demandez la base biblique. Bon, je crois que la base biblique, moi, je la trouve d'abord dans l'autorité que le Christ lui-même a donnée aux apôtres. Tu es Pierre, si cette pierre, je bâtirai mon église. Mais aussi, Jésus a dit aux apôtres, à qui il a confié le pouvoir, c'est lui qui vous écoute, m'écoute. C'est Jésus qui a envoyé les apôtres dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle. Vous voyez ? Et cette église est colonne de la vérité. Je crois que c'est Saint Paul qui le dit. Donc, tout cela donne à l'Église ses pouvoirs, n'est-ce pas, de conserver d'abord ces écrits-là et ensuite de proclamer ces écrits. Et il y a eu un besoin de pouvoir les codifier, de pouvoir les mettre ensemble. Alors, deuxième question, vous voulez connaître la différence entre parole de Dieu et la Bible. Bon, tout à l'heure, je crois que j'ai répondu déjà à cette question. La Bible, l'Église catholique définit la Bible comme étant la parole de Dieu inspirée. Inspirée, c'est la parole de Dieu. Et donc, quand vous dites Bible et que vous revenez, vous dites parole de Dieu, en fait, vous dites simplement la même chose. Vous voyez ? Vous dites la même chose. Il n'y a pas de différence. Quand on dit parole de Dieu, c'est la parole vivante. C'est cette parole peut-être qui nous rappelle au début de la Bible, dans le livre de la Genèse, quand Dieu dit, ce que Dieu dit, c'est ce qui se réalise. Ça nous rappelle cette parole-là. C'est ça, de la Bible, dans le livre de la Genèse, quand Dieu dit, ce que Dieu dit, c'est ce qui se réalise. Ça nous rappelle cette parole-là. C'est ça, l'écrit par les prophètes, qui a parlé par Jésus, et qui parle aujourd'hui par l'Église. C'est ce Dieu-là. Et même à travers cette tradition, toute cette tradition-là, c'est la tradition vivante. Ce sont des prédications. C'est la liturgie. Mais c'est Dieu qui a parlé. Vous voyez ? C'est tout cela qui constitue la parole de Dieu. Tandis que Bible, bon, ça fait penser vraiment à ce qu'on a mis ensemble. Cette parole de Dieu fixée par écrit. Cette parole de Dieu qu'on a résumée dans ce livre qu'on appelle la Bible. Mais ici, on ne peut pas oublier, comme le dit Saint Jean, à la fin de son évangile, je crois au chapitre 21, quand il dit que Jésus a encore fait beaucoup d'autres choses, beaucoup. Si on les écrivait en détail, eh bien le monde entier ne suffirait pas à contenir ces livres-là. C'est ça qu'on appelle, mon frère Joseph de Marie, parole de Dieu et Bible. Alors, dans quelle catégorie on place les manuscrits, plutôt les apocryphes? Bon, d'abord, c'est quoi apocryphe? Je crois que j'ai déjà répondu à cette question-là. Les apocryphes, ce n'est pas satanique. Ça, il faut d'abord les retenir. Mais c'est des écrits que l'Église n'a pas retenus comme inspirés. Parce qu'il y a beaucoup de détails là-bas et certains détails ne sont pas fidèles à la tradition apostolique. Je vous ai parlé des critères
L'Église s'est servie de tous ces critères-là, et c'est comme ça qu'il a considéré que certains textes n'étaient pas utiles, hein, à les retenir comme livres inspirés, comme textes inspirés. Bon, je sais que le mot apocryphe. L'Église s'est servie de tous ces critères-là, et c'est comme ça qu'il a considéré que certains textes n'étaient pas utiles, hein, à les retenir comme livres inspirés, comme textes inspirés. Bon, je sais que le mot apocryphe, ces documents-là, par exemple, les chercheurs, ceux qui font les études des Bibles approfondies, ils peuvent avoir accès à ces documents. Donc, ce sont des écrits qui sont religieux, mais très anciens. Ils se présentent comme des écrits bibliques, évangiles, des actes des apôtres, les apocalypses, etc. Mais que l'Église n'a pas reconnu. Et donc, ne font pas partie du canon. Alors, dans quelle catégorie? Ben, l'Église les classe dans les catégories des livres que moi j'appelle non canoniques. Des livres qui ne sont pas inspirés. Ce sont des livres historiques, c'est très populaire, que l'Église garde jalousement. Mais ce n'est pas des livres que l'Église garde jalousement. Mais ce n'est pas des livres d'apocryphes. Donc, tout ça, il y a aussi beaucoup d'autres textes de Paul, par exemple les actes de Paul. Il y a le père Roger qui nous parle souvent du proto-évangile de Jacques, hein, qui était très populaire d'ailleurs au Moyen-Âge. Donc, c'est tout ça des manuscrits. Et ce n'est pas considéré par l'Église comme des livres inutiles, c'est important. Mais, quelque part, ça n'a pas rempli les critères. Voilà pourquoi l'Église ne les a pas retenus comme livres canoniques. Alors, la dernière question, Daniel peut me rappeler ça.
Voilà, la dernière question de notre frère Joseph Demarie. Voilà, nous allons le retrouver. Voilà, il est intervenu à travers une note vocale que nous allons suivre.
Pour finir, très cher monsieur l'abbé, dans quelle catégorie l'Église place-t-elle les apocryphes? Est-ce que les apocryphes sont le recueil sont considérés par l'Église comme des ramassis, hein, des ramassis que l'Église se donne la peine, malgré tout ça, de remplir sa bibliothèque au Vatican? Et lorsqu'il y a un vide ou un silence sur un texte biblique quelconque dans la Bible, est-ce que l'Église ne peut-elle pas recourir à la jurisprudence de la Bible que j'appelle les apocryphes? Est-ce que l'Église ne peut-elle pas recourir à la jurisprudence de la Bible que j'appelle les apocryphes?
Matondo mingi bilandi ya Radio Maria betumekuma na ndambo ya zole ya malogi ya betu ya kilimba bubu ya katechese nationale Ina Betkina Kulanda Kintoa Jonathan Talabé, Philibert Mayenge, le directeur éditorial des radios Maria sous station ya Matadi Kintoa di Nayandi Betkina Kutubila Mambu ya Mfunu mingi na metubila deja na Lumputu andike futukila yao na Bunkufi na Kikongo andiki bambula beto ntima ya ni mwosi mpote mbote kasi kana betukila nda kutuba yao na Kikongo Jibundu mama ya mukanda ya santu biblia kinkulu bana na kinkulu ti na mpova inasona maka tatarabe bitme pesange ndinga samu na Kikongo pedingala
matono mingi mpangi Daniel samu na ndinga beno nyoso bilandi ya Radio Maria ngemba ya mfumu vwanda na beno pe matondo mingi na mutindo Bubu yae bini mepona diaka radio ya mama. Yae kidiki la beno. Betu kisambila kintuadi na radio yae. Betu kekuwa malongi ya mfunu. Ina kisadisa betu na luzingu ya betu. Katecheza betu bubu yae zona munisa betu ti. Libundo yani kile ngudi ya bibila. Mamu nyosha bandaka na kinkulu ya betu. Ina bankaka vandaka tuba na mpova. Busi na manima. Baba kaka mabanza ya kusonika yao, ya kusala mukanda. Ina betu kesimbaka konso mtu na maboko ya betu. Betu zola munisa beno ti bibila katuka kana zulu ve, ya mekubwa na ntoto. Bibila ya butuka kana kati ya kinkulu, na kati ya luzingu ya nkangu, na lukuikilu, mpena kati ya dibundu. Ya betu zola munisa beno. Yao idea mwantete betu kesimba, wana bibila keleve, mpova ya nzambi, bavonda kalunga yao. Fumu na betu Yesu Kristo, yani bika kama mukanda ve. Yani sonika kama mukanda ve. Na manime ya lufu ampia lufutumu kuna yandi. Bantumwa. Bao bavonda kalunga nsangu ya mbote. Na mpova. Bao bavonda ka pesa ba temwanyaji. Pe bao bavonda ka na litirji kusambila. Yao betu kitanga na mukanda mavanga bantumwa. Na kapu ya zole nzila ya makumi ya na zole ti, bavu andaka tatamana na malungi ya bantumwa, na kintuwadi ya kimpangi ya keleka, na kukabula dimpa, pena kusambili. Ina kena kumunisa beto ti, ya vandaka kinkulu ina, ya vandaka na mpova, bavu andaka tuba sana, batemonaja bao, luzingu ya bao. Pe, kinkulu yai, yao kuzaka buta lukuikilu ya beto ba Kristo. Santu Polo kelomba na ba Kristo wa Tesalonika ti basi mbila kinkulu ina. Mamu nyosi na balo ngisaka bao basi mbila yao. Yavu wana mpova, yavu wana mikanda. Ina bao vandaka soniki na bao. Donk, yavu vandaka ntete kinkulu dikamu ya nkulu. Kuna diaka yaba na kwa ina mpova. Yavu wana bansiku, yavu wana bisambu, yavu wana ba mamu nyosi na bao vandaka tuba. Nyoso ina. Bavondaka tuba yao kwenye na mpova. Peya vondaka na arameye. Bosi na manima, bakuzaka sonika yao. Dikangu ya impa mutindo mosi, Nouveau Testament. Deja na ba ane 30, to 70. Ya vondaka na mpova, Yezo, mete ombaka na zulu, balongo ki mete atamana kisalu ya bao. Ki, na bamvula makuu mitanu, de Santo Paulo mi bana kusonika, mikanda na yandi. Bosi na manima, na bamvula makumi samba na tanu, wema na kusonika nsangu ya mbote. Tala mutindu ya vandilaka. Meme nsangu ya mbote ya mfumu na betu Yesu Kristo, ya vanda kwandi kutambula na bampova, bambu ina bantu vandaka solola, batimonaji na bantu vandaka pesasa na bao na bao. Pedibundu kuzaka baka di banza ya kupona mikanda. Pe mikanda ina baku kuzaka pona ya betu ibogilaka kanon de la Bible. Ya vanda na ba kriteri. Kriteri antete, ya futi vwana na nzila ina, na lukuikilu ina bantumu walongisaka betu. Ya futi zitisa lukuikilu ya dibundu, kutatama na lukuikilu ina. Mpe ba mamu ina bantu vandaka sala na kati ya litirji, mpe ya futi fwana na nakinkulu ina. Ya dibundu kusaka pona mikanda ya bibila. Ya vanantete na Rome, na konsili ya Rome, na 382, epi na konsili ya Carthage, ebosi na konsili de 30. Kuzaba kuzaka dibundu, kuzaka mona ti, fubito vwanda na mikanda, makumi ya na sambaru na dikangu ya nkulu, epi makumi zole na sambadi
na likangu ya imba. Yaunde beto mekuma na bibila yai betu kena yao bubu yai kisalu ina ba mwanu vona kasala yao kusonika na maboko ya bao kusonika yao mpe baguza kakabula yao na ba chapitre baguza kakabula yao na ba verse samu beto vona na facilite ya kutanga yao bubu yai bibila kena maboko ya beto bubu yai samu di bundu lundaka yao di bundu ponaka ina ya mbote dibundu kuzaka sonika yao nde bubu yai bibila memwangana na inza ya mvimba yao bitu metubati dibundu kele mama ya mpova ya nzambi yani mepesa beto mpova ya nzambi yani lundaka mpova ina yani lundaka lukuikilu bana bantumwa bana baperli l'eglise ti bubu yai donc betu fote simba ti mamu nyoso ya bibila kana betu ke kintuwa dina dibundu ve, kana betu mezimba na kinkulu ya dibundu, ya kifuanda mpasi, sambele toma bakusa yao. Balani ya rado maria, tana mkuse, teme ya katechezi na biswa lelo, ezali, tozo la kisake, eklezia, azali penda mama ya sangwelamu, mama ya bibila, ezali eklezia mutapesa biso. Bongo ezaki na bokoko na biso, e bandaki na maloba, na ba temwanyaji, o batu badako lobana, Desima ba yako zoli kanisi yako kuma yango na lolenge toza na Bible lelo. Na lenga na tali sabino ke Bible e uta likolo te kwe na mabele te. E botamo anakati ya histoire, histoire ya batu ubandimila kinzambe, bazaki na boyambi na bango, pe nakati ya eklesia, eklesia katoliko. Yene mutapesi bibila, yene mutapesi bibila. Yene mtu asika mukandate, akoma pe mukandate. Simaliwa pe sekwa na ye awa buti likolo, ba ye kulibaye, baza ye ko sakola sangwela, muna maloba. Baza ye na mukandate, na ba temoyaji na bango, na liturgie na bango. Ya wana santu pola koloba, na acte des apôtres chapitre 2, 42 ya koloba, baza ki pena kukangama na matea ba apostolo. Baza ki lisanga bo moko, bo ndeko ya solo, bazo kabula lipa, bazo sambi lelongo. Yangwana de bokoko. Eza yuko loba na boye. Mukande eza rakite. Bongo sima. Nakati kaka ya bokoko wana, na maloba wana, na batemonaj wana. Nde yangwe simba ki boyambi ya ba Kristo. Yangwe kotinda santu polo na mukana ba tesalonisye alobate. To bazaki pena kukanga mana matea ba apostolo. Bazaki lisanga bo moko bo ndeko ya solo. Bazo kabula lipa. Au sambi lelongo. Yangwana de bokoko. Eza yuko loba na boye. Mukande eza rakite. Bongo sima. Nakati kaka ya bokoko wana, na maloba wana, na batemonaj wana, ne yangwe simba ki boyambi ya ba Kristo. Yangwe kotinda santu polo na mukana ba tesalonisye alobate, to kanga po batu batako pesana. Nyoso wana, yangwe basangi sakinde, basala, bokoko bakala. Ebongo na sima tozipe na ba manuscrit mikanda ya kala kala wana o eklesia bomba katino lelo kuna nde eklesia atalaki o esengeli ba simba ekota lankati ya bibila na o esengaki ba bwakate kasi ba bomba po eko yuko sunga eklesia d'une manière ou d'une autre ya mwana nde banda na l'an 30 tina l'an 70, posa wana ezaki ya kukuma penza. Me, liboso ezaki na maloba. Kaka, verba ane 50, de santu polo abani kukuma. Mikanda mia ye. Bongo, verba ane 65, ti 100 apre Jésus, ne, baye kukuma sangwelamu, baye kukuma acte des apôtres, naba apokalipsi, nyo swana, naba mikanda msusu ba kukuma yango. Nyo swana ezaki, Musala munene eklezi asali discernement. Atali na mikana nyoso wana. Atali na maloba nyoso wana. Oba tubaza hiko lobana. Nde eklezi ya, nangwe ya limo santu, aluki ba kriter. Ba kriter oye sali saki bango pote, ba pona mikanda, oye pene zali inspire. Kriter alibose zali, ifo ezala eloko moko, ezo ke enanzela ya oyo ba apostolo ba teya. apostolicité. Yami balé, il faut ezala ezala na boyambi wana e kangama na boyambi wana oto bengi orthodoxie. Yami ça il faut que nanzela makambo batu bazako sala tant bazo sambela tant bazo ko célébrer liturgie ba isage wana fais à la fidèle et bongo makambo wana il faut que nanzela mokuna na bakoko babiso yamwana de tina ki ecclesia aya ko pona mikanda oyo esali bible a lelo yamwana le bagage ali 46 pour l'ancien testament ezali 27 pour le nouveau testament nyonso wana yamwana ko pesa 73 livres de ecclesia catholico azanango à la différence ba protestant bango bazanango 66 parce que bango baboya ki ba mikanda oyo to benga ba détro canonique. Yangonde esala ki te église ayeko sala mikanda mukanda oyo to bengi bible lelo esangisi ba mikanda ebele. Bongo na sima bayeko mona te mukanda eza munene mingi il faut ko kabula yango na chapitre ko kabula yango na ba verset yango posa na pe yaki banana na 5e siècle ti na renaissance nde bayeko kabula yango na ba chapitre muta sala yango ezali Étienne Langton, bongo oua ko kabola yango na ba verset, comme on a eu Robert Estienne. Moni, bongo ne basali moussala wana mounene penza, nyosone salamape elongo na ba mouan, ou bazana katia, ecclesia. Talabande, kouma mkuse te koloba, pou nan kota li sabino ke bibila, e outi na kati ecclesia. Ecclesia mouta bomba yango, ecclesia mouta pesabiso yango, yango te koloba ke, ecclesia dali maman, ya bibila. Pe tomoni yango malam, li boso ezaki boko kona biso na maloba, na ba témoignage, bongo la sima, nde, ba eko koma yango, ba komi yango na mukanda, oto bengi bible, oto zango, na mboko na biso tino lelo, pe, bible wana, epanzani, omokili, mobimba. Nyo sone ezali mosala ya eklesia. Yango, toko suksa na koloba, makamu nyo so itali bibila. Seki toza elongo na eklesia te. Seki to bosani bokoko ya eklesia, eko zala pasi poto eba ngu malamu, eko zala pasi poto zana bibila. Paske eklesia yende mutako laki sabiso nzela, yende mutako tambu sabiso, yende mutaponagi ba mikana nyoso toza nango. Naba ndeko bakabola kabo ya mimungo na biso te, mukanona ba simba kawana, ba mikana nyoso na bango batanga galelo, ba verse nyoso na bango bapesa galelo, muta pona yango muta discerna yango malam ezali eklesia na biso katoliko yende mama yende mobateli yende apesa biso boyambi oyo tozo kabola lelo tozo bake tozali ba Kristo tala na mwa mukuse matea katisho ya biso ya lelo matondi mingi
totondio monsieur l'abbé Philibert Mayengele Longo na bande ko banso bazo landa katechese ya biso ya lelo to ekole longo bandeko likambo etali bible biblia tozana mituna ebele to mituna ka autour ya biblia et tozui occasion ya koyekola koyoka pe kozwa ndambu ya biyano na mituna na biso kasi numero ya biso ezali disponible po toko ba kutuna mituna na Lingala tona ki Kongo pour que monsieur l'abbé na deuxième partie yo yume na kate apesa biso na lombango moi biyano voilà donc tozali kozela la ba mituna na bino betina ku vingila biuvu ya beno samu tatalabe vutula mvutu soki to tuni na Lingala te monsieur l'abbé a ko se servir na ngonga e pona ko silisa ba biyano na bandeko ba tika ki ba question na lokota ya français kasi dans l'entretemps tozo zela mituna na bino biskina kuvingira biuvu ya beno bampangi matondo mingi bitiki tatamana kukumisina meselabe ndambu ya biuvu bikanaka na lomputu. Bonjour monsieur l'abbé, je vous remercie pour cette excellente catéchèse qui explique très bien les divisions et subdivisions de la Bible ainsi que le rôle très important de l'Église dans la lecture de la Bible. Si j'ai bien compris, en tant que catholique, nous ne pouvons donc pas lire la Bible de protestant car il manque des livres. quels textes n'apparaissent pas chez les protestants. Erissa Izambaï, depuis Genève en Suisse.
Merci beaucoup à notre frère, à notre sœur, c'est Irisa, c'est ça, qui nous appelle depuis la Suisse. Mais avant de répondre à votre question, permettez-moi de revenir à la dernière question de Joseph de Marie, qui voulait savoir si l'Église ne peut pas recourir à la, jurisprudence en cas de vide, hein, s'il y a un vide. Bon, est-ce qu'il y a vraiment un vide? Je ne pense pas, parce que quand vous lisez la Bible, apparemment, la Bible aborde tout, hein, tout. C'est vraiment la parole de Dieu. Quand vous lisez la Bible, parfois vous êtes étonné de voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans la Bible, parfois que nous connaissons mal, mais la Bible reprend tout cela. Bon, alors, l'Église, bon, ça c'est moi qui réponds, hein, j'ai réfléchi un peu comme ça. Si l'Église considère les apocryphes, comme étant des livres non canoniques, hein? C'est-à-dire des livres qui ne sont pas inspirés par Dieu. Je ne pense pas que l'Église peut recourir à ça. Non, parce que pour l'Église, ces livres ne sont pas inspirés, ces livres ne sont pas reconnus comme canoniques, c'est-à-dire ils n'ont pas une autorité fiable. Ces livres n'ont pas répondu aux critères. Et donc, quelque part, ils peuvent contenir des erreurs, peut-être doctrinales, peut-être des éléments contraires à la révélation. Donc, je ne vois pas comment l'Église peut recourir à des écrits qui avaient déjà été mis de côté. Bon, je sais que les chercheurs peuvent s'en servir, peut-être pour bien comprendre certains passages de la Bible, c'est possible. Peut-être l'Église aussi peut s'en servir pour recourir peut-être à certains aspects de l'Église, peut-être sur les plans pastoral, sur les plans culturels, l'Église peut recourir à ça, mais sans un fondement doctrinal. Parce que c'est des livres qui ne sont pas canoniques. Donc, ça m'étonnerait que l'Église puisse se contredire jusqu'à ce niveau-là. Voilà. Donc, en cas de vie doctrinale, l'Église ne peut pas se tourner vers les apocryphes. Non. Mais l'Église se tourne vers la révélation, transmise dans l'Écriture et dans la tradition. L'Église peut se tourner vers le magistère. C'est l'enseignement autorisé. Les papes, les évêques. L'Église peut se tourner au discernement à travers l'Esprit Saint. Donc voilà ce que je peux répondre à notre frère Joseph de Marie. Alors, quels sont les livres que les protestants n'ont pas retenus? C'est la question de notre sœur Irisa. Bon, d'abord, tous ces livres-là, on les appelle livres d'hétérocanoniques. D'hétéro veut dire second en grec, hein? Deux. Et canonique, c'est-à-dire reconnu comme faisant partie du canon, c'est-à-dire la liste officielle des livres de la Bible. Effectivement, tous ces livres ont été reconnus comme canoniques en un second degré. Il y avait d'abord les canons hébraïques et ensuite les canons grecs. C'est la Septante avec la traduction de Saint Jérôme. Et notons ici que Jésus lui-même a utilisé cette Bible-là, la Septante. Alors, il y a sept livres au total que les protestants n'ont pas retenus. Il y a les livres de Tobie, ils n'ont pas retenu ça. Il y a les livres de Judith. Il y a les livres de la Sagesse, hein, qu'on appelle la Sagesse écrite par Salomon. Il y a les livres qu'on appelle Ben Sirach les sages, mais Siracide. Les protestants n'ont pas reconnu ça. Il y a les livres de Baruch. Et puis, il y a 1 et 2 Maccabées. Voilà. Donc, Tous ces livres-là sont considérés par les protestants comme des livres qui ne sont pas canoniques. Alors il y a aussi, je crois, une partie de Daniel et Esther. Parce qu'en fait, à la Réforme, au XVIe siècle, Martin Luther a rejeté ces livres car ils n'étaient pas dans les canons juifs. Les canons qui étaient, qu'on appelle la Bible hébraïque, hein, ce n'était pas là. Mais l'Église est revenue là-dessus. Hein? Lui, Luther, a suivi les canons hébraïques, qui est plus court, alors que l'Église catholique va utiliser la version grecque de la Bible qu'on appelle la Septante, et cette version inclut ces livres rejetés par les protestants. C'est comme ça qu'au Concile des Trente, on va réaffirmer, en second donc, d'hétérocanonique, tous ces livres comme étant canoniques. Voilà, merci beaucoup.
Voilà, on va rebondir sur la question de notre frère Joseph de Marie. La dernière question qu'il pose, il veut savoir pourquoi les mots Bible ne se trouvent-ils pas dans la Bible?
Merci beaucoup Joseph de Marie. Je crois que j'ai déjà répondu à cette question. Les mots Bible ne se trouvent pas dans la Bible, évidemment, parce que les mots Bible veut dire tout simplement ensemble des livres. Tous les livres qui composent la Bible, c'est ça qu'on a traduit en latin, Biblia veut dire les livres, plusieurs livres. C'est une bibliothèque, vous voyez? Alors comment voulez-vous que ça se retrouve dans la Bible? Et Bible veut dire parole de Dieu. Bible veut dire « bonne nouvelle du salut ». Ouais. Donc c'est ce que ça veut dire. C'est la même chose, mais ça veut tout simplement dire c'est beaucoup de livres que vous tenez, hein, donc je ne vois pas, je ne sais pas quelle raison je peux encore vous donner. Donc, voilà. C'est comme ça que je crois que je peux répondre à Joseph de Marie.
Voilà, nous allons prendre la toute dernière préoccupation.
Vous, révérend Philibert, et cher Daniel, c'est parti depuis Bandonville. J'ai beaucoup aimé ce refrain, surtout quand vous dites sans l'Église, il n'y aurait pas de Bible. Là, c'est une brèche encore qu'on peut beaucoup creuser. Je ne sais pas, c'est quelle Bible? Les Bibles, selon la conception du format qu'on a, électronique, physique, des chapitres, des versets, ainsi de suite, ou la Bible dans le sens de la parole de Dieu en général. Donc, c'est l'Église, selon vous, qui a précédé la parole de Dieu. Comment pouvez-vous expliquer ça, papa? Et quand vous parlez encore de l'Église, ça me renvoie à ma question d'hier, que vous n'avez pas pu répondre, papa. Quand j'ai demandé, qu'est-ce que vous comprenez de ce concept d'Église? Et pourquoi c'est elle qui décide plus, comme étant la mère, vous dites l'Église de notre mère, elle décide, mais où est le père? Et pourquoi le père, lui, ne décide pas? Vous ne m'aviez pas répondu. Je reviens encore à cette question-là. Papa, que dirions-nous de nos frères musulmans qui restent pour eux la Bible, c'est un truc tripoté, modifié, codifié, retraité, révisité, révisé, et par conséquent, ils ont mis ça de côté. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Et pour finir, papa, je pense qu'il s'est passé à Irumo, je crois, le dimanche. Les ADF, ils ont tué, ils sont venus à l'église catholique, ils ont vandalisé, ils ont tué les papas, même condamnés. Mais ce que ces gens-là font, c'est ce que Corneille Nangaa aussi fait, non? On a vu le révérend Fulgence lui donner comment on appelle ça, les sacrements. Je ne sais pas, quand est-ce qu'on peut donner à un monsieur réfractaire comme Nangaa les sacrements? Je crois que c'est après la repentance, une repentance sincère. Donc nous supposons que les gars s'étaient repentis pour que l'homme de Dieu s'approche de lui, qu'il y ait ses accolades là, cette série de joies entre guillemets. Mais même après qu'il ait pris ces sacrements, voilà ce qu'il continue de faire. Je pense qu'on est tous ici, vous connaissez ce que ce monsieur a fait. Est-ce qu'il faut continuer à donner du crédit aux gens comme ça? parti depuis Manonoufé.
Merci beaucoup, Apathy. J'aimerais souligner ici, je crois que je l'ai dit au début de mon exposé. En fait, je me suis inspiré de votre question d'hier. Et hier, j'ai essayé de vous répondre à la question pourquoi nous disons que l'Église est mère. C'est l'Église qui nous a donné naissance. Si vous vous appelez chrétien, aujourd'hui, Apathy, vous êtes chrétien de l'Église protestante, parce que vous avez reçu le baptême dans cette Église-là. C'est cette Église qui vous a donné naissance comme chrétien. Cette Église vous éduque, cette Église vous enseigne, cette Église vous amène à la croissance spirituelle que vous avez. Comment voulez-vous l'appeler? C'est votre mère. Qui est le Père? Le Père, c'est Dieu. C'est Dieu qui a voulu l'Église. Quand le Christ s'est dit, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Le Père, c'est qui? Les bâtisseurs, c'est qui? C'est le Christ. Vous voyez? C'est le Père. Dieu est l'auteur, donc. De l'Église. Et c'est Dieu qui a donné à l'Église cette autorité. Cette autorité-là. Elle, la mère. Il est sur terre. Quand Jésus dit à Pierre, tu es Pierre, si cette pierre, je bâtirai mon Église. Et il ajoute, ce que tu lieras sur la terre. C'est ça l'autorité de l'Église. C'est à Pierre que Jésus a laissé l'Église. Et c'est Pierre qui a commencé l'Église. C'est Pierre qui est je dirais, le chef même du collège des apôtres. Vous voulez qu'on parle de quelle autorité? Et c'est Jésus qui a envoyé ses disciples. Allez, de toutes les nations, faites mes disciples. Et le travail que nous faisons aujourd'hui, c'est à la suite justement des apôtres que nous faisons cela. C'est la mission de Jésus que nous continuons. Et à partir de votre question-là, j'ai beaucoup réfléchi. Demain, je vais parler de l'Église comme mère de la Bible. Maintenant, pourquoi l'Église est mère de la Bible? Parce que c'est elle qui l'a reçue. C'est elle qui l'a transmise, protégée et discernée. C'est ce que j'ai dit. C'est vrai que Dieu est l'auteur de la parole de Dieu. C'est lui le Père, pour revenir encore à votre question. C'est lui le Père. Mais l'Église est la mère qui nous l'a fait entendre, qui nous aide à la comprendre, qui nous aide à l'aimer. Donc Dieu est le Père de la parole de Dieu et l'Église en est la mère nourricière. C'est l'Église qui nous nourrit de cette parole. Pourquoi quand vous dites, quand vous allez à la messe, vous dites, nous avons été nourris à la nourriture spirituelle, la parole de Dieu. Mais qui vous a enseigné cette nourriture? Qui a conservé cette nourriture? Qui vous permet de vivre spirituellement? Mais c'est l'Église. Et voilà pourquoi nous on peut dire, sans l'Église, il n'y aurait pas la Bible. Puis c'est l'Église qui a codifié cette Bible. C'est l'Église qui a transmis cette Bible. L'Écriture a été transmise par l'Église. D'abord, oralement, au début, puisque Jésus n'a pas laissé d'écrit. Et puis l'Église a enseigné la parole et les actes. Et il a confié sa parole aux apôtres. Et Jésus a même dit, voilà encore l'autorité. C'est lui qui vous écoute, m'écoute. Si vous écoutez l'Église aujourd'hui, qui a reçu cette autorité du Christ, ben vous écoutez le Christ lui-même. Et l'Église a rédigé. Cette Église-là, c'est l'Église catholique, mon frère. N'allons pas sur quatre chemins. Vous connaissez l'histoire, tout ce qu'il y a eu comme schisme. Au départ, c'était quoi? C'était la branche, c'est l'Église catholique romaine. Et puis après, il y a des schismes. Il y a des petites divisions au cours de l'histoire. Et puis peut-être qu'on reviendra sur une catéchèse là-dessus. Et le père Roger a déjà donné une catéchèse dans ce sens-là. Donc l'Église a rédigé, l'Église a discerné, l'Église a assemblé les textes. Et ce sont les communautés chrétiennes, sous la conduite des apôtres. Vous voyez, les communautés de Rome, de Corinthe, d'Éphèse, les Colossiens. Vous voyez? Toutes ces communautés-là, ils ont partagé la parole de Dieu et puis ils ont senti le souci de mettre ça par écrit. Et c'est après plus de 3 siècles que l'Église va reconnaître officiellement les livres, les canons de la Bible. Nous sommes au Concile des Trente. Ce concile-là, mais qui l'a organisé? C'est l'Église catholique. Vous voyez? Et
Aujourd'hui encore, c'est l'Église qui interprète la parole. Qui peut mieux l'interpréter que cette Église, hein, qui a discerné, qui a retenu les livres, qui l'a protégé, qui l'a conservé et qui a permis que cela nous parvienne. Il n'y a que l'Église qui peut nous donner la Bible. Ignorer la tradition, ignorer toutes ces étapes-là, mon frère, c'est ignorer l'Église. Bon, vous parlez de Nanga ici, bon, moi je ne suis pas là à faire des réflexions, mais qui peut juger quelqu'un? Est-ce qu'un évêque a le pouvoir de juger quelqu'un? Quelqu'un qui se présente au sacrement, vous voulez qu'on lui dise que toi tu n'approches pas, qui connaît son cœur, qui connaît sa relation, hein, avec Dieu? Il n'y a que Dieu qui connaît ça. Nous, on n'est pas là à juger, nous, on n'est pas là à refuser les sacrements. Quand moi, je reçois quelqu'un qui vient pour la confession, dois-je dire que toi, tu es pécheur, toi, tu fais le mal, toi, tu es en train de tuer des gens, ne viens pas te confesser. Hein? Cette démarche qu'il fait vers le prêtre, vers le pasteur, mais ça peut l'aider, n'est-ce pas, à se convertir. Et donc, l'Église continue à faire son travail, parce que l'Église est la mère, encore une fois de plus. L'Église est mère. Une mère accepte tout le monde. Une mère peut soigner, une mère peut guérir, une mère peut conseiller, une mère peut soulager. Et un pasteur ne peut pas refuser. Le Christ lui-même n'a pas refusé les pécheurs. Vous connaissez le récit de Jésus et la femme adultère. Comment voulez-vous que nous puissions aujourd'hui refuser l'Église? Le Christ lui-même a connu cela. Hein? Comment lui, il peut être avec les pécheurs? Il mange avec les pécheurs. Même les apôtres se posaient toutes ces questions-là. Et le Christ finalement est venu pour qui? Il n'est pas venu pour les justes, il est venu pour les pécheurs. Donc, nous faisons notre démarche pastorale. C'est lui qui connaît les fonds du cœur de quelqu'un. C'est Dieu et Dieu seul. Ne nous laissons pas influencer par les climats politiques ou quoi. Il y a ce qui concerne la spiritualité, c'est autre chose que cette querelle entre guillemets politicienne. C'est très très différent. Donc, Monseigneur Fulgence n'a fait que son travail de pasteur. Le reste est réservé à Dieu. Merci beaucoup à notre frère Paty. J'espère que j'essaie de répondre à vos inquiétudes depuis hier jusqu'à aujourd'hui. Merci beaucoup.
Voilà, merci Monsieur l'Abbé, fidèles auditeurs. Eh bien, c'est la fin de cette catéchèse. Vous avez été nombreux, nombreux, très nombreux à intervenir et nous vous en remercions très sincèrement. Et vous êtes nombreux dont les questions n'étaient pas explicitement lues. Vous vous êtes peut-être retrouvé à travers une réponse donnée à quelqu'un d'autre, à travers la question que vous avez concernant la question que vous avez posée. Et nos excuses à ceux dont la question n'a pas pu être posée, faute de temps. Nous allons terminer. Monsieur l'abbé Philbert nous a entretenu sur un thème très très important. Voilà, et ce thème nous a d'ailleurs, comme nous l'avons constaté, inspiré beaucoup de questions. L'Église mère de la Bible, de la tradition vivante à la parole écrite. Nous allons nous disposer pour la prière des clôtures. Monsieur l'abbé.
Avant cela, chers auditeurs, chers internautes, merci pour votre participation à cette catéchèse. Je crois que nous avons découvert ensemble une vérité essentielle. La Bible ne nous est pas tombée du ciel, mais nous l'avons reçue. Et nous l'avons reçue par l'Église, notre mère dans la foi. C'est elle qui, guidée par l'Esprit Saint, a discerné, a rassemblé, a transmis et a fait vivre la parole de Dieu au cœur des générations. N'oublions pas cette vérité, elle est essentielle. Et c'est cette Église qui a autorité d'interpréter correctement la parole de Dieu. Faisons attention avec toutes ces prédications que nous suivons aujourd'hui. Faisons attention avec tous ceux qui s'autoproclament pasteurs. La Bible nécessite l'inspiration de l'Esprit Saint, bien sûr, mais vous devez recevoir une autorité, l'autorité de l'Église. Jésus a donné autorité. Vous aussi, vous devez recevoir une autorité pour vous tenir devant une assemblée et prêcher la bonne nouvelle du salut. N'oubliez jamais qu'il s'agit des soins des âmes. C'est ça la démarche de l'Église, les âmes. Vous préparez les âmes de ses fidèles à accueillir Dieu, à accepter Dieu et à préparer leur passage sur terre pour entrer un jour dans le royaume des cieux. Et enfin, on ne peut pas bien comprendre la Bible quand on ignore cette tradition qui nous l'a donnée. C'est ce que nous avons essayé de rappeler à travers cette catéchèse. Que Dieu nous aide. Quittons toutes les discussions, les incompréhensions, tout ce qui nous habite. Non, recherchons la vérité autour de l'histoire de la Bible et à la place de la tradition. Merci beaucoup pour votre attention et restez branchés sur les ondes de la radio de notre Mère du Ciel, la Radio Maria. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, notre Père, c'est toi qui nous as parlé par les prophètes et pleinement révélé ton cœur par ton Fils Jésus. Nous te bénissons pour les dons de la Sainte Écriture. Nous te bénissons pour cette catéchèse d'aujourd'hui. Nous te bénissons pour l'Église, notre Mère, qui a gardé vivante ta parole, qui la proclame dans la liturgie et l'enseigne avec fidélité depuis les apôtres jusqu'à aujourd'hui. Donne-nous ton Esprit Saint, qu'il ouvre notre intelligence et notre cœur, pour que nous ne soyons pas seulement des auditeurs, mais des disciples qui vivent de ta parole. Fais de chacun de nous une Bible vivante, que le monde puisse lire à travers nos gestes et nos paroles, comme l'ont fait nos anciens par les témoignages de vie. C'est seulement de cette manière que le monde va te découvrir, va t'aimer et va te servir fidèlement. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Amen. Merci beaucoup. C'est la fin de cette catéchèse, fidèles aux auditeurs. Grand merci une fois de plus pour votre disponibilité à pouvoir la suivre. Merci à tous les techniciens qui ont travaillé d'arrache-pied pour nous permettre de suivre cette catéchèse dans de très bonnes conditions. Nous pensons entre autres à Georges Ngoma depuis la station de Matadi. Au revoir.
Soki linakali lisepeli sibino ezali pona libonza na bino. Tokoba kusunga Radio Maria. Radio Maria, Radio Nanga, Radio Yayo, Radio Yabiso Banso.